Chapitre 10. Conseil. 33. Deux jours avaient passé et Jean Dibal se sentait moins le cœur lourd qu'enragé. Il n'y avait aucune raison de ne pas avoir immédiatement procédé à l'audience. D'autant que s'il n'avait pas été prêt, s'il lui avait fallu du temps, il était bien certain qu'il lui aurait collé son procès tout de suite. Mais puisque la seconde fondation n'avait rien d'autre à faire qu'affronter sa plus grave crise depuis l'époque du mulet, ils préféraient perdre leur temps. Et pour le seul plaisir de l'irriter. Et certes, il l'irritait. Mais par Seldon, ça ne rendrait que plus violente sa riposte. Il y était bien décidé. Il regarda autour de lui. L'antichambre était vide. Et c'était comme ça depuis deux jours maintenant. Il était devenu un homme marqué, un orateur dont tout le monde savait qu'il allait, au terme d'une procédure sans aucun précédent dans les cinq siècles d'histoire de la Seconde Fondation, bientôt perdre son rang. Il serait destitué de sa charge, ravalé au simple rang de membre de la Seconde Fondation purement et simplement. C'était toutefois quelque chose et quelque chose de fort honorable que d'être membre de la Seconde Fondation, en particulier pour peu qu'on y détienne un titre respectable, ce qui pourrait être son cas même après sa suspension. C'était une toute autre affaire que d'avoir été orateur et de se voir rétrogradé. « Ils ne vont quand même pas faire ça !» se dit sauvagement Jean Dibal, même s'il devait bien constater que depuis deux jours on l'évitait. Soura Novi était la seule à le traiter comme auparavant, mais elle était trop naïve pour comprendre la situation. Pour elle, Jean Dibal était toujours « maître ». Il était d'ailleurs irrité d'y puiser un certain réconfort. Il s'était senti honteux lorsqu'il avait commencé de s'apercevoir que son humeur s'améliorait sitôt qu'il la voyait le contempler avec adoration. Allait-il donc à présent prendre plaisir à des satisfactions aussi mesquines ? Un huissier sortit de la salle du conseil pour lui annoncer que la table était prête à le recevoir. Et Jean Dibal le suivit d'un pas raide. L'huissier était un homme que Jean Dibal connaissait bien. Il était de ceux qui savaient, à un iota près, quel degré précis de civilité accorder à chaque orateur. Au vu de son comportement, la cote de Jean Dibal était pour l'heure au plus bas. Même l'huissier ne le considérait déjà pas mieux qu'un bagnard. Ils étaient tous solennellement réunis autour de la table, et tous portaient la robe noire des juges. Le premier orateur, Chandès, semblait légèrement mal à l'aise, mais il refusa de laisser paraître sur ses traits la moindre trace d'amitié. Delarmy, l'une des trois femmes oratrices, ne daigna même pas le regarder. Le premier orateur commença. « Orateur Stor Jean Dibal, vous avez été relevé de vos fonctions à la suite de votre comportement indigne d'un orateur. Vous avez, devant nous tous ici présents, accuser la table de manière vague et sans preuve de trahison et de tentative de meurtre. Vous avez laissé entendre que tous les membres de la seconde fondation, y compris les orateurs, et le premier d'entre eux, devraient subir un contrôle mental scrupuleux afin de déceler ceux qui sont devenus indignes de confiance. Un tel comportement est de nature à briser les liens de notre communauté, liens sans lesquels la Seconde Fondation est incapable de contrôler une galaxie complexe et potentiellement hostile, et tout aussi incapable d'édifier en toute sécurité un second empire viable. Puisque nous avons tous été les témoins de cette offense au Conseil, je propose par conséquent de passer sans plus tarder à l'étape suivante. Orateur Jean Dibal, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? À présent, Delarmy, toujours sans le regarder, se permit d'esquisser un sourire félin. Si la vérité peut être considérée comme une défense, alors je vais la dire. Il existe effectivement des motifs de croire à une faille dans notre sécurité, faille se traduisant sans doute par le contrôle mental d'un ou plusieurs membres de la Seconde Fondation, sans exclusive de ceux ici présents. Faille à l'origine d'une crise mortelle pour la Seconde Fondation. S'il est vrai que vous avez hâté mon procès pour éviter de perdre du temps, c'est peut-être effectivement que vous aurez vaguement admis le sérieux de la menace. Mais dans ce cas, pourquoi avoir attendu deux longs jours après ma demande d'une audience immédiate? Je suppose que c'est l'imminence et la gravité de la crise qui m'ont poussé à dire ce que j'avais à dire. Si je ne l'avais pas fait, c'est là que je me serais comporté de manière indigne d'un orateur. Il ne fait qu'aggraver son cas, premier orateur, remarqua doucement Delarmy. Le siège de Jean Dibal était décalé de la table par rapport aux autres, signe déjà manifeste de sa rétrogradation. Il le recula encore plus, comme s'il n'en avait cure, et se leva. « Allez-vous donc me condamner sommairement, sans jugement, au mépris de toute loi, ou bien puis-je présenter ma défense en détail ?» Ce fut le premier orateur qui répondit. « Loin de nous, l'intention d'agir illégalement, orateur. Et faute d'une jurisprudence pour nous guider, nous inclinerons dans votre sens, reconnaissant que si nos capacités trop humaines devaient nous conduire à dévier de la justice idéale, mieux vaudrait encore laisser le coupable en liberté que condamner un innocent. En conséquence, et bien que le cas devant nous présenter soit si grave que l'on puisse difficilement envisager de laisser le coupable aller libre, nous vous permettrons de présenter votre défense à votre guise et en prenant tout le temps qu'il vous faudra jusqu'à ce qu'il soit décidé à l'unanimité des voix, y compris la mienne. » Et il éleva le ton sur ces derniers mots. « Que nous en avons assez entendu. » Jean Dibal reprit. « Permettez-moi donc de vous annoncer pour commencer que Golan Trévise, l'homme de la première fondation expulsée de Terminus, et que le premier orateur et moi croyons être le fer de lance de la crise imminente, que cet homme a dévié avec son vaisseau dans une direction inattendue. » Point d'information. Intervint doucement Delarmy. Comment l'orateur, et son intonation soulignait l'absence de majuscule, a-t-il eu connaissance de ceci? J'en ai été informé par le premier orateur, dit Jean Dibal, mais j'en ai eu personnellement la confirmation. Vu toutefois les circonstances et considérant mes soupçons quant au niveau de sécurité de cette table, on me permettra de garder le secret sur mes sources de renseignements. « Je réserve ma décision sur ce point, » dit le premier orateur. « Nous poursuivrons donc sans cet élément d'information. Si toutefois la table estime que l'information doit être obtenue, l'orateur Jean Dibal se verra tenu de la fournir. » Delarmy intervint. « Si l'orateur ne délivre pas maintenant cette information, on est alors légitimement en droit de supposer qu'il dispose d'un agent à son service, un agent employé à titre privé, et donc non responsable devant la table du conseil. » Nous ne pouvons être certains qu'un tel agent se conforme aux règles applicables au personnel de la seconde fondation. Le premier orateur remarqua avec un certain déplaisir : Je suis capable de voir toutes les implications, oratrice Delarmy. Inutile de me les énumérer en détail. C'était uniquement pour le procès verbal, premier orateur, puisque ceci aggrave le cas du prévenu et que les faits n'ont pas été portés à l'acte d'accusation, acte dont, ferai-je remarquer par parenthèse, on n'a pas fait intégralement lecture et sur lequel je demande que le présent élément soit ajouté.
« Le greffier est chargé d'ajouter l'élément, » ordonna le premier orateur, « dont l'énoncé exact sera libellé en temps opportun. » « Orateur Jean Dibal, »
lui au moins mettait la majuscule,
« votre défense, en définitive, a régressé d'un pas. Poursuivez. »
Jean Dibal poursuivit.
Non seulement ce Trévise est parti dans une direction inattendue, mais il l'a fait en plus à une vitesse sans précédent. Mes derniers renseignements, dont le premier orateur n'a pas encore connaissance, indiqueraient qu'il a parcouru près de 10 000 parsecs en bien moins d'une heure.
En un seul saut ?
S'exclama l'un des orateurs incrédules.
En un peu plus de 2 douzaines de sauts successifs, réalisés pratiquement sans le moindre intervalle, chose encore plus difficile à imaginer qu'un saut unique. Même si on a pu le localiser à présent, il va nous falloir du temps pour le suivre, et si jamais il nous détecte, et veut réellement nous semer, nous serons dans l'incapacité totale de le rattraper. Et vous passez votre temps à des chicaneries juridiques, et en traînant deux jours encore histoire de mieux savourer la chose. » Le premier orateur parvint à dissimuler son désarroi. « Dites-nous, je vous prie, orateur Jean Dibal, quelle peut être, selon vous, la signification de tout ceci ?»«
C'est une indication, premier orateur, des progrès techniques réalisés par la première fondation, qui se révèle être aujourd'hui considérablement plus puissante qu'au temps de Prime Palver. Nous serions totalement incapables de leur résister s'ils nous découvraient et se trouvaient libres de leurs mouvements. »
L'oratrice de l'armée se dressa. « Premier orateur, on nous fait perdre notre temps avec des balivernes. Nous ne sommes plus des enfants que l'on effraie avec des contes de mamie supernova. Qu'importe que l'appareil technologique de la première fondation soit impressionnant, quand, en cas de crise, leur esprit sera sous notre contrôle. »
« Qu'avez-vous à répondre à cela, orateur Jean Dibal ?» demanda le premier orateur.
D'abord que nous aborderons cette question du contrôle de l'esprit en son temps. Pour le moment, je désire essentiellement insister sur la supériorité, et une supériorité croissante, de la puissance technologique de la première fondation.
Veuillez passer au point suivant, orateur Jean Dibal, indiqua le premier orateur. Je dois dire que ce premier point ne m'a pas paru avoir un extrême rapport avec le contenu de l'acte d'accusation.
Il y eut un mouvement général d'assentiment autour de la table.
« Je poursuis. » Trévise a un compagnon de voyage.
Il marqua une légère pause, prenant soin de prononcer correctement.
« Un certain Janov Pelorat, un chercheur assez insignifiant, qui a consacré toute sa vie à recenser tous les mythes et légendes concernant la Terre. Vous savez tout cela sur lui.
Encore votre informateur caché, je suppose, lança de l'armi, qui s'était installé dans son rôle de procureur avec une aisance manifeste.
Oui, je sais tout cela sur lui,
dit Jean Dibal imperturbable.
Il y a quelques mois, le maire de Terminus, une femme énergique et capable, s'est intéressé à ce chercheur pour des raisons pas très claires, et donc j'en suis venu tout naturellement à m'y intéresser moi aussi. Je n'ai pas non plus cherché à garder ça pour moi. Toutes les informations que j'ai pu recueillir ont été mises à la disposition du premier orateur.
« J'emporte le témoignage, »
dit Chandes à voix basse. Un orateur âgé intervint.
« Quelle est cette terre ? S'agit-il du monde des origines que l'on rencontre sans cesse dans les légendes, cette planète autour de laquelle on a fait tout un foin du temps de l'ancien empire ?»
Jean Dibal opina. Dans les contes de Mamie Supernova, comme dirait l'oratrice de l'armée. Je soupçonne Pelorat d'avoir rêvé de venir à Trentor consulter les archives galactiques afin d'y trouver des informations au sujet de la Terre. Informations qu'il ne pouvait obtenir via les services de la bibliothèque interstellaire disponibles sur Terminus. Lorsqu'il a quitté Terminus avec Trévise, il doit avoir eu l'impression que ce rêve allait s'accomplir. Et sans aucun doute escomptions-nous de notre côté mettre la main sur eux et profiter ainsi de l'occasion pour les examiner à notre bénéfice personnel. Mais il apparaît, comme vous le savez tous à présent, qu'ils ont décidé de ne pas venir. Ils ont dévié vers une destination encore mal définie, et ce, pour une raison encore inconnue.
Le visage rond de l'armée se fit positivement angélique.
Et pourquoi serait-ce si gênant? Nous ne nous portons certainement pas plus mal de leur absence. En fait, puisqu'ils nous lâchent aussi facilement, nous pouvons en déduire que la première fondation ignore toujours la véritable nature de Trentor, et nous ne pouvons qu'applaudir encore l'habileté de Prime Palver.
Si on ne veut pas réfléchir plus loin, contra Jean Dibal, on pourrait effectivement déboucher sur cette rassurante conclusion.
Se pourrait-il toutefois que leur revirement ne résulte pas d'une incapacité à déceler l'importance de Trentor? Se pourrait-il que ce revirement traduise au contraire la crainte que Trentor, en les examinant, ne décèle l'importance de la terre. »
Il y eut soudain une grande agitation autour de la table.
« N'importe qui, » remarqua froidement Delarmy, « peut toujours s'amuser à inventer des propositions ronflantes et les coucher en phrases bien tournées. Valent-elles pour autant quelque chose une fois que vous les avez inventées ? Pourquoi quelqu'un devrait-il s'intéresser à notre opinion, l'opinion de la seconde fondation au sujet de la Terre ? Que ce soit la véritable planète des origines ou que ce soit un mythe, ou qu'il n'existe même pas de planète des origines, voilà certainement un problème qui ne devrait intéresser que les historiens, les archéologues et les collectionneurs de récits folkloriques comme votre Pélorate. Pourquoi nous ?
Effectivement, pourquoi ? Répéta Jean Dibal.
Comment expliquez-vous alors qu'on ne trouve pas une seule référence à la Terre dans toute la bibliothèque ?
Pour la première fois, quelque chose d'autre que de l'hostilité se fit sentir autour de la table du conseil.
Pas une ? Demanda Delarmy.
Jean Dibal répondit avec le plus grand calme.
Dès que j'eus vent de la venue possible de Trévise et Pélorate sur Trentor, en quête d'informations au sujet de la Terre, j'ai tout naturellement demandé à l'ordinateur de notre bibliothèque un listage de tous les documents contenant une telle information. J'ai pu découvrir alors, avec une curiosité modérée, qu'elle n'en contenait aucun. Elle n'en contenait pas une petite quantité, pas un très petit nombre, aucun. Là-dessus, vous me forcez à attendre 2 jours avant que ne se tienne cette audience. Et simultanément, ma curiosité se trouve piquée lorsque j'apprends qu'en définitive, nos 2 premiers fondateurs ne viennent pas nous rendre visite. Il fallait bien que je trouve à me distraire. Alors que le reste d'entre vous s'amusait, comme on dit, à trinquer pendant que la maison brûle, je me suis mis à parcourir les quelques livres d'histoire que j'avais chez moi. Et je suis tombé sur des passages mentionnant explicitement certaines recherches effectuées vers la fin de l'Empire à propos de la question des origines. On y faisait référence à des documents bien précis, écrits ou filmés, au besoin en extrayant des citations. Je suis donc retourné à la bibliothèque pour y rechercher moi-même ces fameux documents. Je vous assure que je n'ai absolument rien trouvé. Quand bien même ce serait le cas, observa Delarmy. Ça ne constitue pas forcément une surprise. Après tout, si la Terre est effectivement un mythe, alors je l'aurais trouvé dans la section mythologie. Si c'était un conte de Mamie Supernova, je l'aurais trouvé dans les œuvres complètes de Mamie Supernova. Si c'était la divagation d'un esprit dégénéré, je l'aurais trouvé sous la rubrique psychopathologie. Le fait est que quelque chose existe effectivement à propos de la Terre. Sinon, vous n'en auriez pas tous entendu parler, au point même de reconnaître immédiatement dans ce nom celui de la présumée planète des origines de l'espèce humaine. Pourquoi, dans ce cas, n'en trouve-t-on nulle part la moindre référence dans la bibliothèque ?